BW. Droits et libertés.
Avez-vous déjà entendu parler des armes imprimées en 3D ? Est-ce que ces armes, qui sont fabriquées de façon illégale, par des particuliers par exemple, représentent un danger ? Est-ce qu'avec des imprimantes de plus en plus perfectionnées, des matières plastiques accessibles, ces armes ne risquent pas de proliférer rapidement ? Toutes ces questions et bien d'autres, ce sont celles que je pose cette semaine à Léo Géhin, notre invité. Il est chercheur au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité à Bruxelles. Il vient de publier justement une note sur ces armes en 3D. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Alors bonjour Léo Géhin, vous avez reconnu le film dont est tirée cette citation ?
Et je pense que c'est Le Bon, la Brute et le Truand.
Gagné, c'est ça. C'est un western de Sergio Leone de 1966. Alors bon, c'était une entrée en matière un petit peu facile, avec le sourire, pour parler d'un sujet plutôt grave en fait avec vous, les armes imprimées en 3D. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ces armes imprimées en 3D ?
L'impression 3D, en fait, c'est une méthode de fabrication d'objets par ajout de couches de matières successives. Le principe, c'est un principe assez simple, c'est de disposer donc d'un plan de conception de l'objet que vous voulez créer, de le charger sur un logiciel informatique qui, lui, va donner ordre donc à une imprimante de produire de la matière en suivant les formes du plan. On peut en fait produire par impression 3D à la fois avec des matières plastiques, mais aussi des matières métalliques.
Et pourquoi est-ce qu'on en reparle maintenant ?
Alors d'abord, il faut rappeler que c'est une technique qui n'est pas nouvelle, puisque les premiers procédés en fait datent des années 80 et puis se développent ensuite progressivement dans l'industrie à partir des années 90. En fait, il y a des applications assez variées de l'impression 3D. Il y a une application qui est tout à fait légale dans un certain nombre de secteurs industriels, que ce soit le secteur civil ou militaire, vous avez le secteur médical, vous avez l'industrie aéronautique.
On a beaucoup parlé des prothèses, par exemple. Hein.
Tout à fait. Donc, le secteur des prothèses médicales. Vous avez aussi des applications qui sont la plus militaire. Par exemple, vous avez l'US Army aux États-Unis qui réfléchit à doter ses forces en opération donc de petites imprimantes 3D grâce auxquelles elles pourraient produire en fait, sur mesure des drones en fonction des spécificités du terrain. En fait, on n'a jamais vraiment arrêté d'en parler, mais on en reparle parce que l'impression 3D a aussi potentiellement des applications illégales. Et en juin 2019, donc en juin dernier, la justice britannique a condamné pour la première fois un étudiant qui avait essayé de produire une arme à feu grâce à cette technique. Le sujet a fait irruption dans les médias quand un jeune Américain qui s'appelle Cody Wilson a publié des photos, des vidéos d'un pistolet qu'il affirme, lui, avoir produit par impression 3D et donc quasi exclusivement en polymère, donc en matière plastique.
Alors, il a inspiré de nombreuses personnes qui ont vu ces vidéos, d'abord aux États-Unis, mais je vais vous faire encore entendre un petit extrait. C'est une vidéo d'un YouTuber, elle date de 2018. C'est un jeune homme qui s'appelle Peanuts 3D.
Ça, c'était la première arme que j'avais imprimée en 3D. Je vais vous présenter tout ça, mais avant toute chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel autre type d'arme t'aimerais que j'imprime. Que ce soit sur l'univers, je sais pas, Call of Duty, Battlefield, Fortnite, Assassin's Creed, peu importe l'univers qui te fait kiffer, l'univers qui te fait plaisir. Et puis moi, je peux voir après ce que je peux faire pour les reproduire. La première arme que j'avais imprimée, c'était ce petit sniper, intervention, réplique d'intervention de Call of Duty Modern Warfare 2. Alors là, il y a un problème, c'est qu'il manque la crosse à l'arrière. Elle s'est cassée depuis quand même pas mal de temps. Tu le vois, elle est juste là. Et c'est des morceaux qui sont très très fins, donc c'est vrai que ça avait beaucoup de mal à tenir. À cette époque-là, j'avais qu'une seule imprimante 3D. Ça m'avait pris plusieurs jours à imprimer ce sniper. Tu le vois, il est quand même super bien reproduit. Franchement, pour ma première arme, pour ma première création en taille réelle comme ça, j'en étais quand même super fier.
Voilà, donc lui est super fier parce qu'il arrive à reproduire dans son salon ou dans sa chambre des armes, des répliques d'armes existantes ou inspirées de jeux vidéo sur commande de ses followers. Alors, est-ce que c'est si facile que ça de se procurer les plans d'une arme, une imprimante 3D et puis de produire un objet chez soi comme une arme qui marche ?
Il faut distinguer ce qui est possible de ce qui est facile. Il faut aussi distinguer en fait la situation qui prévaut en matière de production d'armes aux États-Unis et dans l'Union européenne. puisque ça c'était le focus géographique de notre travail au GRIP. Et puis enfin, distinguer ce qui est possible de ne pas faire avec de l'impression 3D de métal et de l'impression 3D de plastique. À l'heure actuelle, le prix des imprimantes 3D qui traitent le métal sont prohibitifs pour les particuliers et même la plupart des organisations criminelles. On parle de prix d'entrée de gamme de 90 000 euros, pour vous donner une idée. Par contre, si maintenant on parle de ce qui est possible de faire ou ce qui est éventuellement facile de faire avec une imprimante qui traite le plastique, il n'est pas impossible, effectivement, de réussir à produire une arme réelle qui tire grâce à des plans donc mis en ligne. Il faut savoir, en fait, que la démarche du youtubeur là dont vous parlez a été facilitée par la démarche de Cody Wilson, l'américain, donc, puisque lui-même en fait a diffusé commencé à diffuser les plans de conception de son arme en accès libre, et il se trouve qu'en fait la diffusion de ces plans de conception ne s'est jamais vraiment arrêtée entre 2013 et aujourd'hui.
Je crois que les autorités ont tenté de le retirer, mais il s'était déjà propagé sur le net.
Absolument. Alors il y a ça, et il y a aussi le fait que à l'heure actuelle, et depuis 2013 et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours un bras de fer en fait qui oppose la justice américaine, qui cherche donc à mettre fin et à interdire la diffusion de ces plans de conception, et l'administration Trump, qui, elle, lui est favorable. Ceci dit, concernant les imprimantes elles-mêmes, il est éventuellement possible d'acquérir une imprimante 3D donc, qui traiterait là, le plastique pour des prix assez disons, raisonnables, mais il faut encore s'assurer que sa qualité, que sa précision et que ses caractéristiques techniques bah, permettent de produire une arme fonctionnelle. Si vous réussissez, avec vos plans, avec votre imprimante à vous, à ne produire que certaines parties, ça ne marche pas. Si vous réussissez à produire toutes les parties, mais qu'après vous n'arrivez pas à les assembler, parce qu'en fait les dimensions ne sont pas bonnes, parce qu'il y a certaines pièces qui sont défectueuses, là aussi ça ne sert à rien. Ensuite, pourquoi je mentionnais la dichotomie entre la situation aux États-Unis et en Europe, c'est qu'il y a une différence fondamentale qui est qu'aux États-Unis, la loi permet donc aux particuliers de produire des armes sans autorisation préalable, du moment que l'arme est à usage personnel. Dans l'Union européenne, la situation est différente, puisque lorsque vous souhaitez fabriquer une arme, vous devez bien sûr obtenir un agrément, avoir une autorisation. Donc par conséquent, si vous vous faites repérer en train de télécharger ou d'acheter des plans de conception 3D d'armes par les services de sécurité qui, bien sûr, surveillent ou ont en ligne de mire les plateformes de partage, là, vous risquez gros.
Donc, elle soulève ces armes des fantasmes d'individus qui, dans leur salon, se fabriqueraient des arsenaux en plastique. La peur qui existe aussi, c'est bien sûr que ces armes qui sont quand même relativement bon marché, quand vous parliez de 90 000 euros pour une imprimante 3D, c'est une somme qui peut être dérisoire pour un groupe armé, par exemple, en période de guerre asymétrique. Donc, c'est quand même un danger potentiel dans le sens où la technologie va de toute façon être améliorée aussi. Donc ces difficultés des matières, des matériaux qui sont utilisés et ces prix sont amenés à baisser, non ? La qualité va s'améliorer dans les prochaines années.
Alors oui, là vous posez la question de la progression des technologies, de la réduction des coûts, qui sont effectivement des choses qui peuvent advenir dans les années à venir. Et c'est pour cela d'ailleurs que la problématique est tout de même suivie par les forces de sécurité de manière pertinente. Ceci étant dit, concernant la capacité ou la volonté éventuelle de groupes armés d'acquérir des armes par impression 3D, je pense qu'en fait, ils n'y ont pas véritablement intérêt, car d'autres sources d'approvisionnement d'armes plus classiques, plus conventionnelles existent. Quand vous regardez par exemple les attaques donc terroristes en Europe ces dernières années, ce ne sont pas des armes imprimées en 3D qui sont utilisées, d'autres types d'armes. Vous retrouvez par exemple des armes qui en fait ont été réactivées après avoir été neutralisées initialement. Vous retrouvez des armes qui ont été converties parce qu'elles à la base n'étaient pas faites pour tirer de manière réelle. Donc je pense que si vous êtes un groupe armé, quelqu'un qui souhaite commettre un attentat terroriste, vous allez vous tourner vers d'autres armes que les armes imprimées en 3D.
En gros, ça ne sert à rien de s'embêter avec une imprimante et des matériaux si on peut accéder à des armes qu'on peut trafiquer, des armes existantes déjà qu'on peut récupérer et utiliser.
Oui, c'est ça, effectivement. C'est en fait une sorte de rapport qualité-prix, en fait. Simplement, quand même, une chose qui peut être amenée à durer concernant les armes 3D, c'est pas tellement le risque de produire des armes dans leur totalité, mais c'est plutôt de produire des parties d'armes.
Des pièces détachées.
Des parties d'armes. Absolument, des pièces détachées que vous allez en fait après apposer sur des armes déjà existantes qui vous permettront de remplacer d'autres pièces, d'autres armes. C'est problématique parce que ça peut rendre difficile, voire impossible, l'identification de l'arme initiale. En fait, les fabricants d'armes doivent apposer un marquage sur leurs armes, c'est-à-dire en fait un certain nombre d'informations, comme l'année de fabrication, le numéro de série, le calibre, le modèle, qui sont des informations qui servent ensuite aux forces de police pour enquêter sur le parcours de l'arme, par quelles mains elle est passée, qui les a acquis. Et donc, si vous voulez, par exemple, éviter qu'on identifie votre arme, vous pouvez essayer de reproduire par impression 3D là où les parties qui contiennent le marquage, mais sans le marquage, du coup. Et puis, vous les interchangez ensuite pour avoir une forme de ce qu'on appelle aux États-Unis les armes à feu fantômes.
Pour finir sur une note un petit peu plus positive ou plus optimiste, vous signalez également qu'il n'y a eu aucun incident mortel signalé en Europe depuis 2013 et encore aucun en Allemagne.
Alors effectivement, ça c'est ce que nous avons relevé, en tout cas en épluchant les différentes coupures de presse disponibles. On retrouve beaucoup plus d'autres types d'armes qui sont mentionnées dans les enquêtes criminelles ou dans les grandes affaires terroristes par exemple. On a également consulté une étude comparative sur les trafics d'armes donc dans une série de pays européens et qui, elle aussi, établit qu'en fait, les armes réalisées par impression 3D n'occupent qu'une place limitée, si vous voulez, dans les inquiétudes et les problématiques des forces de sécurité européennes.
Merci beaucoup, Léo Géhin, pour toutes ces explications.
Merci à vous. Au revoir. I get up, I get down, and I'm jumping around. And the rumpus and ruck is so comfortable now. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow.
Merci à Léo Géhin pour cet entretien. Il est chargé de recherche au GRIP et travaille notamment sur le contrôle des transferts d'armement de l'Union européenne. Pour podcaster Droits et Libertés, allez faire un petit tour sur notre site internet www.com/français à la rubrique Nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien. Here we go.